Si le télétravail fait désormais partie de votre quotidien, ouvrez l'oreille. On va se demander quel impact le télétravail a sur les promotions en entreprise. Autrement dit, sommes-nous privés de promos depuis que l'on est absent du bureau? Et vous êtes là pour nous éclairer, Alain Salamin. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez été pendant plus de 20 ans RH en entreprise avant de créer votre propre société de conseil. Alors comment on fait pour évaluer ses employés, attribuer des promotions lorsqu'on ne les voit plus travailler?
Oui, c'est un changement de paradigme, en tout cas pour certains managers, parce que si vous aviez l'habitude de regarder quelles sont les voitures qui sont dans le parking le matin quand vous arriviez, ou quel est le bureau qui est allumé quand vous venez le matin, et puis à l'inverse le soir de rester jusqu'à 18h30 ou 19h pour voir qui est-ce qui était encore là, ce type de manager va évidemment avoir quelques défis à relever avec le télétravail. Pourquoi ? Parce que on doit vraiment changer, comme je disais, de paradigme. C'est plus du tout la présence qui compte, et ça d'ailleurs ça n'aurait jamais dû être le cas précédemment, en tout cas dans mon opinion, c'est plutôt les contributions qui doivent compter. Et à partir du moment où la personne n'est physiquement plus là, évidemment qu'on doit se réorienter vers une vision qui est beaucoup plus sur ce que la personne produit, sur ce que la personne contribue effectivement.
Sur le qualitatif plus que le quantitatif. C'est en tout cas la piste choisie par une entreprise. On a un exemple concret à vous soumettre, Alain Salamin, c'est celui des SIG à Genève. Ils ont implanté le télétravail bien avant la pandémie. Cynthia Racine, vous avez pu vous entretenir avec le directeur des services industriels de Genève. Comment est-ce qu'il gère les évaluations au sein de son entreprise ?
Eh bien, au SIG, les collaborateurs ont depuis 6 ans la possibilité de télétravailler 2 jours complets par semaine et même lorsqu'ils viennent au bureau, les horaires sont à la carte. Et cette nouvelle organisation du travail a nécessité une nouvelle manière d'évaluer les collaborateurs, une évaluation plus qualitative que quantitative. Christian Brunier, directeur des SIG.
Alors, le but, c'est de dire on va regarder plus le travail effectué, qualité, quantité, que le fait qu'il soit 8 heures présent. Franchement, les mauvais cadres, ils font quoi ? Ils contrôlent l'horaire, parce que c'est facile. C'est facile de dire à quelqu'un, t'arrêtes toujours 10 minutes en retard, c'est scandaleux. Et ça, et c'est pas le but d'un manager. Par contre, de contrôler ou d'essayer d'apprécier la qualité du travail ou la quantité du travail, c'est quand même le but même d'un cadre.
Le but d'un cadre. Alors partons de ce principe, Cynthia, comment est-ce que les SIG attribuent les promotions ?
Là aussi, le système a été revu. Pour voir son salaire augmenter, il n'est plus nécessaire de passer cadre. Un employé peut gagner autant que son supérieur. L'objectif, c'est d'éviter le syndrome de Peters, être un excellent technicien, mais un mauvais cadre. Et tout ceci a changé avec le télétravail. Christian Brunier.
Il y a des gens qui ont des talents de management, il y a des gens qui ont des talents d'expertise. Laissons-les éclater dans leurs talents et poussons-les pas dans des voies où ils vont être en échec et ils vont pourrir en plus la vie des équipes souvent. Donc voilà, ça c'est un nouveau système d'évaluation et je pense qu'on a vu ça aussi à travers le management à la confiance, à travers le télétravail, parce que les cadres, plusieurs cadres ont été un peu en perdition parce que justement il n'y avait plus cette notion d'horaire et cette présence à 100%. Et ça montrait la limite des personnes qui étaient là plus pour faire de la bureaucratie, du contrôle bureaucratique, du contrôle de petit chef, plutôt que donner du sens au boulot, de motiver les gens, de les embarquer plus loin et de créer une émulation positive pour tout le monde.
Alors avec un système basé sur la confiance, est-ce qu'il n'y a pas plus de risques de triche de la part des employés ?
Au contraire, selon les SIG, le risque c'est plutôt que les employés travaillent trop, que les collaborateurs souhaitent à tout prix montrer qu'ils sont à la hauteur de la confiance qu'on leur accorde. C'est un piège qu'il faut éviter parce qu'un employé qui travaille trop, c'est aussi un employé qui travaille mal.
Alain Salamin, plusieurs choses dans ce que l'on vient d'entendre. Un employé qui travaille trop, il travaille mal, vous êtes d'accord avec ça ?
Alors, s'il travaille trop en termes de temps, évidemment qu'il va nécessairement y avoir à un moment donné un impact sur la santé de la personne. Il faut bien définir qu'est-ce que ça veut dire travailler trop. Typiquement, c'était justement de passer des heures impossibles au travail. Et là,
on peut les passer derrière son ordi à la maison aussi pour faire acte de présence numérique.
Voilà, et c'est là qu'on revient à la notion de contribution, et il y a des exemples assez intéressants de novateurs, Ricardo Semler, ça fait déjà des années, qui disait à ses employés, mais quand vous avez fini ce que vous deviez faire, mais arrêtez, allez faire autre chose, restez pas là juste parce que il faut être présent, ça fait aucun sens. Donc cette notion de présence, pour moi, Enfin, avec le télétravail, elle passe au second plan et c'est cette notion de contribution qui doit être mise en avant.
La présence, le relationnel, ce n'est plus un atout, mais quand même le savoir-vivre en entreprise, être poli, présentable, bien s'entendre avec ses collègues, on fait quoi de ça ?
Oui, alors, si on fait du télétravail, d'abord, on n'est pas complètement déconnecté, parce qu'on a des moyens de communication, notamment tout ce qui est vidéoconférence. Il y a une étiquette aussi, en termes de comportement, sur tout ce qui est vidéoconférence. Et puis aussi, ben, très clairement, il y a un certain nombre de situations, et notamment, typiquement 50% du temps, en moyenne, même un peu plus, où on est toujours au bureau. Donc, cette notion de savoir-vivre, elle reste évidemment présente, tant à la maison en télétravail qu'au bureau. Par contre, il y a probablement un point que je trouve assez intéressant, c'est que on idéalise peut-être un petit peu trop le bureau maintenant qu'on fait du télétravail. Parce qu'au bureau, il y a toujours des situations où, évidemment, vous ne choisissez pas vos collègues. Donc, il y a des gens avec lesquels vous ne vous entendez pas forcément très bien, avec lesquels il peut y avoir des tensions. Et pour moi, cette notion de savoir-vivre et d'étiquette, avec le télétravail, ben, on a un moyen, en tout cas, de faire baisser un petit peu la pression. Et probablement, quand on se retrouve, d'être plus content de se retrouver que si on est tout le temps ensemble.
Mais qu'est-ce qu'on fait finalement de la discussion autour de la machine à café, des bruits de couloir où on apprenait que tel ou tel poste allait se libérer c'est la fin un peu du piston aussi quelque part.
Alors, indépendamment du fait qu'il y a des bruits de couloir qui, pour moi, sont plutôt parasites que productifs, on se retrouve dans une situation où, à partir du moment où on est centré sur la notion de contribution, ben de facto, on a des éléments beaucoup plus concrets, beaucoup plus objectifs et factuels pour décider des promotions. Et ça, c'est aussi lié au fait que, par défaut, le fait d'être moins présent donne aussi moins d'opportunités pour créer ces situations de favoritisme qui sont basées sur purement la relation et l'émotionnel. On a tous des cas respectivement en tête où il y a certaines personnes qui sont favorisées, pas qu'au travail d'ailleurs, hein, dans d'autres domaines aussi. Et bien là, avec une notion de contribution, j'y reviens toujours, mais c'est important, c'est le fondamental, on a un élément pour mieux évaluer les gens et surtout, on a cette notion de favoritisme qui est très lié au fait qu'on a les gens avec qui on est proche, on se rencontre, on a un certain nombre, un nombre de proximité avec des collaborateurs qu'on n'a pas avec d'autres. Le fait que tout le monde soit au télétravail pendant un certain nombre de jours par semaine, bah ça va niveler tout ça et pour moi, c'est particulièrement positif de ce côté-là
donc
aussi.
Donc si je vous comprends bien, le télétravail rend les promotions, les mises au concours plus équitables.
Elle devrait en tout cas, parce que on a une base qui est beaucoup plus claire, factuelle, pour évaluer le mérite de chacun. Donc on parle de méritocratie et puis cette notion de favoritisme qui est fortement liée à la présence au bureau, à des petits clans qui se forment. Ben inévitablement, si 50% du temps on n'est plus au bureau, c'est des éléments qui vont, je l'espère en tout cas, fortement passer au second plan.
Alain Salamin, vous êtes consultant RH. Est-ce que le télétravail peut aussi engendrer certains travers? On peut penser qu'il va déboucher sur un monde du travail à deux vitesses, hein, les télétravailleurs et les autres, qui pourraient se sentir lésés. Si on prend l'exemple, on entendait ce matin Logitech qui peut se permettre d'offrir un lundi de congé par mois à ses télétravailleurs. La vendeuse, la caissière, l'infirmière, elle ne va pas pouvoir avoir ça. Elle va devoir aller sur son lieu de travail. Est-ce qu'il n'y a pas finalement la perspective d'un monde du travail à deux vitesses?
Oui, c'est très possible. Et d'ailleurs, c'est pas nouveau parce que quand on a introduit il y a déjà plusieurs dizaines d'années tout ce qui était horaire de travail flexible, ben inévitablement, il y avait des professions qui pouvaient avoir cette flexibilité, donc de ne pas être présent pendant certaines plages horaires pendant la journée et d'autres ben, qui étaient en contact typiquement avec la clientèle et qui n'avaient pas le choix. Donc oui, le télétravail va probablement accentuer le fait qu'il y a des métiers qui sont de manière inhérente liés au présentiel et qui n'ont pas le choix, et d'autres par contre qui auront cette opportunité de faire du télétravail avec quand même un petit point de bémol, c'est qu'on ne parle pas, en tout cas par quelques rares entreprises, on ne parle pas de télétravail à 100%. On parle plutôt d'un mix entre 2-3 jours par semaine, en moyenne 2 jours par semaine dans ce que je vois, 2 jours par semaine télétravail et 2 ou 3 jours de présence. Donc on n'est pas dans un monde intégriste où il n'y a que du blanc ou que du noir.
Alain Salamin, merci de nous avoir apporté toutes ces nuances sur le télétravail. Vous êtes consultant RH, vous avez été pendant plus de 20 ans RH en entreprise, vous étiez en duplex de Sion. Merci beaucoup et bonne journée.
Mais un grand merci, c'était un plaisir.